Des collines et des vignes à la saison des vendanges. Ce pourrait être l'Alsace.
Enchanté. Enchanté, Jeanne.
Une visite qui se prépare entre Français. Ce pourrait être la route des vins, près de Strasbourg.
On y va ?
Mais le sol est un peu trop rouge et l'herbe un peu trop sèche. Le Riesling est à 15 000 km. C'est la route des vins sud-africaines que Jeanne, Geneviève et Yann découvrent aujourd'hui. Mathieu, leur guide qui vit en Afrique du Sud, ne leur lâche pas la grappe.
Donc là, on est sur un cépage rouge, donc à raisin rouge, mais bien sûr, le jus à l'intérieur, c'est un jus blanc. À la feuille, je dirais ça, c'est un Cabernet Sauvignon. On peut les goûter, goûtez-les, hein, les raisins. Dans le raisin de table, il y a énormément de chair, mais pas beaucoup de jus. Dans le raisin de cuve, il y a beaucoup de jus et pas beaucoup de chair.
Et dans les visites guidées de Mathieu, il y a autant de chair que de jus. C'est l'heure de déguster du raisin fermenté dans les chais. Pour ce périple chic organisé sur mesure, les touristes payent 450 euros par personne pour 2 jours, guide compris. Un guide très exalté.
Ah ! Belle couleur !
J'ai à peine ouvert le robinet que déjà tous les arômes ont explosé. Magnifique, magnifique.
Ce qui a aussi explosé, c'est le tourisme sur la route des vins sud-africaines. Près de 500 000 étrangers la parcourent chaque année. 5 fois plus qu'il y a 10 ans.
Si on veut pas, on recrache. Hein. Ça, c'est pas encore tout à fait du vin. Et si la question, c'est du vin sans gueule de bois, ce serait du vin sans gueule de bois, mais avec une bonne diarrhée quand même.
Des visites bon enfant, un brin technique auquel les ouvriers ne participent pas. Les touristes n'auront pas l'occasion de les interroger. Pourtant, depuis novembre dernier, ce sont eux qui créent l'événement dans la région. 19 ans après la fin de l'apartheid, alors que les domaines viticoles restent dirigés par les Blancs, ils manifestent pour être mieux payés, mieux logés et sortir de la misère. Certains sont morts dans ces combats. Quelles sont exactement leurs conditions de travail? Les vacanciers ont-ils vent de leurs revendications? Sur cette terre paisible où résonne rarement la colère, c'est aujourd'hui que l'histoire s'écrit. Pour ceux qui l'arpentent, la route des vins commence souvent dans un hall d'aéroport. Au Cap, un matin de mars, 20 vacanciers en voyage organisé viennent d'atterrir en provenance de France. Parmi eux, Martine, amoureuse déclarée des grands crus, et de son mari qui l'accompagne, avec son frère et sa belle-sœur Chantal, une horticultrice à la retraite. Tous ont un guide.
Je m'appelle Jean-Camille. On va se tenir compagnie pendant votre séjour en Afrique du Sud.
Avant de sillonner les vignobles, ils font étape dans un quartier coloré du Cap, où vivaient autrefois les esclaves asiatiques.
Voilà, donc on va aller dans cette direction.
Puis, ils déjeunent sur les anciens docks. Première occasion pour Martine de confronter son palais au vin du pays. Ou pas?
Moi, j'adore le vin, oui. J'adore le vin, mais j'ai décidé que je ne boirais pas au déjeuner et que je goûterais les vins le soir. Parce que sinon, comme on a une nuit très courte, je pense que dès que je remonte dans le car, je dors.
Pourtant, 5 minutes plus tard...
J'ai beaucoup de mal à résister quand même. Il faut que je goûte le rosé. Avec les glaçons, il est bien meilleur. Franchement, ça relance le goût. Et le verre n'est pas ridiculement petit comme en France.
Un verre bien rempli et bien frais. L'avant-goût est prometteur. Chantal, sa belle-sœur, attend beaucoup de la dégustation programmée le lendemain.
On va peut-être être étonné par des vins qu'on va découvrir. Ils vont être super.
Mais tout de même, des vignes en terre sud-africaine, n'est-ce pas aussi bizarre qu'un oranger irlandais? Comment sont-elles arrivées ici? C'est dans la ville de Franschhoek que cette cocasserie s'explique. En afrikaner, la langue des colons européens, cela signifie « le coin des Français ». Car ce sont les Huguenots, ces exilés protestants, qui ont importé le vin dans la région au XVIIe siècle. À Franschhoek, les références à la mère patrie sont visibles partout, jusque dans le musée, où les panneaux sont écrits dans la langue de Molière. À la surprise de Martine.
Je ne savais pas que ça s'était tellement étalé ici. En revanche, ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'ils continuent à parler la langue française comme ils font à la Nouvelle-Orléans, par exemple.
Franschhoek, terre francophone? C'est ce que nous allons tirer au clair chez un descendant de Huguenots. Enfin, nous allons surtout goûter chez lui l'un des meilleurs vins sud-africains, une sorte de cousin du champagne. Nous sommes avec les trois trentenaires français et leur guide Mathieu. Ils poursuivent leur visite sur mesure de la route des vins.
Bonjour, Johan.
D'emblée, les choses sont claires. Johan Malan, qui les accueille, ne parle pas un mot de français.
Je sais juste dire d'accord.
Il y a 350 ans, son aïeul a fait le voyage de France avec des plants de vigne. Aujourd'hui, Johan est l'un des viticulteurs les plus célèbres d'Afrique du Sud. Sa famille n'a cessé d'afficher la fierté de ses racines.
Voilà mon père, que l'on peut voir sur ce tableau. Il est allé en France à la fin des années 60, en Champagne. Et là, il a vu comment il faisait le vin et la méthode champenoise.
Mais vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'appellation Champagne ?
Non. C'est protégé en France. C'est une appellation contrôlée, comme le vin de Bourgogne ou le Chablis.
Le champagne sud-africain a donc été baptisé Cap Classique. Et il a au moins un admirateur français.
Si on me pose la question, moi j'adore ça.
Johan l'exporte aujourd'hui en Chine et aux États-Unis, mais pas encore en France où la concurrence serait peut-être un peu rude.
Allez, on déguste alors.
Je reconnais pas le champagne tel qu'on le connaît, c'est quand même différent, mais c'est peut-être un peu plus oui, facile à boire, un peu plus comme disait Mathieu, c'est un peu plus accessible, mais j'aime bien aussi, ouais. Mais je trouve que c'est pas quand même du champagne.
Non, mais c'est pas
ce qu'ils veulent être.
Exactement, c'est une très bonne remarque. Qui a suivi toutes les explications qu'on a données, c'est pas ce qu'on veut faire passer le message, c'est pas ça. Hein.
Mais c'est très bon, ouais, j'aime bien.
Cette bouteille est vendue 22 euros. Mais Johan Malan propose aussi des vins bon marché, jusqu'à 3 euros la bouteille. Et si le prix peut descendre aussi bas, c'est en partie parce qu'en Afrique du Sud, la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Le lendemain, les trentenaires ont justement inscrit les vendanges à leur programme personnalisé. Nous retrouvons Geneviève, Jeanne et Yann au petit déjeuner, dans un hôtel de charme.
En tout cas, on n'a pas eu de mal de tête cette
non,
nuit. On n'avait pas abusé.
Le petit en fait. Bon.
S'inviter dans les vignobles au moment de la récolte est un privilège, rarement programmé par les voyages organisés. Mathieu, le guide des trentenaires, connaît bien le contremaître de ce domaine.
Salut Johan. Comment ça va?
Good. Yes.
Il y a 7 ans, il travaillait ici à plein temps en tant que consultant technique.
Donc pour les maladies, ils utilisent d'autres insectes qui combattent les...
C'est ça.
Premier constat, les vendanges se font entièrement à la main. Les vignobles sud-africains n'accueillent encore que peu de machines, à la différence de la France où elles sont employées dans plus de la moitié des domaines. Deuxième constat, les ouvriers sont tous noirs. Comme ils ne parlent pas bien anglais, Jeanne et Geneviève posent peu de questions. Ou juste quelques échanges timides, comme sur les crèmes de couleur jaune dont ces femmes s'enduisent le visage.
C'est pour vous protéger du soleil.
Combien gagnent ces ouvriers? Nous interrogeons le contremaître du domaine, qui produit un vin équitable.
Ils gagnent bien leur vie pour la plupart. Lali, tu gagnes combien, toi?
100 euros.
Pour l'Afrique du Sud, c'est une belle somme d'argent. Elle a reçu 100 euros pour 3 jours de travail.
Mais d'autres travailleuses semblent moins satisfaites de leur sort. Est-ce que le salaire est bon?
Non, il n'est pas bon. Mais laissez-moi, j'ai peur.
Pourquoi?
Je ne veux pas perdre mon travail, je ne veux pas en parler.
Combien gagne-t-elle? Devant son chef, elle ne nous répondra pas. Sans doute bien moins que 30 euros par jour. Nous allons voir que c'est le cas de l'immense majorité des travailleurs viticoles sud-africains. En route pour la dégustation, Chantal a justement engagé avec le guide une conversation sur ce thème. Horticultrice à la retraite, elle est très sensible aux questions de rémunération des travailleurs agricoles.
Depuis
le mois de février, on a arrêté le salaire journalier en Afrique du Sud pour les ouvriers viticoles à 105 rand. 105 rand. Grosso modo, 10 euros. 10 euros par jour. 10 euros par jour.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quelque chose quand même.
Un salaire minimum de 10 euros par jour. Trois fois moins que la somme évoquée par le contremaître.
Bien, hein. Ah ouais. Très bien, comme les grenouilles.
Je sais pas s'il y a du vin, mais de l'eau, il y en a.
La dégustation se déroule dans une salle au style rustique. Ils vont goûter à pas moins de 6 vins différents. Mais pour l'horticultrice qui garde en mémoire sa conversation avec le guide, les gorgées sont amères. Et ce salaire très modique a pourtant été arraché de haute lutte. C'était en janvier dernier, à deux pas des domaines visités par les touristes. 100 000 ouvriers agricoles se révoltaient sur le mode du toy-toy, ces manifestations dansées, symbole de la lutte contre l'apartheid. Un mouvement durement réprimé par la police. Bilan des luttes, 3 morts et des centaines de blessés. Au final, les ouvriers qui gagnaient alors 5 euros par jour ont obtenu du gouvernement le doublement de leur salaire. Mais les nouvelles lois sont-elles appliquées? Cette fois, c'est sans les vacanciers que nous empruntons la route des vins. Nous arrivons près des domaines les plus prestigieux. Au loin, des travailleurs en pleine vendange. Nous allons à leur rencontre sans en informer le vigneron. Dans ces conditions, la parole est forcément plus libre.
On travaille ensemble aujourd'hui, alors ?
Non, je travaille toute seule.
Il est 10 heures du matin et cela fait déjà 4 heures que Sarah travaille. Elle vendange ce qu'on appelle des vignes de buisson. Le raisin pousse au ras du sol. Pour le récolter, les travailleurs doivent se pencher davantage et souffrent souvent de douleurs aux reins.
C'est très difficile. C'est vraiment dur, ce travail. Le soleil me brûle. Et quand il y a peu de raisins, comme maintenant ou qu'il est petit, c'est dur de remplir les cageots.
Sarah a été recrutée spécialement pour les vendanges. Mais Willy, lui, travaille sur la ferme depuis plus de 10 ans. À 61 ans, avec sa silhouette cassée, il se dit très fatigué.
Cela fait très longtemps que j'ai mal partout. J'ai des crampes, surtout dans les jambes. Et quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est de mettre les pieds en l'air, comme le médecin me l'a conseillé. J'ai des crampes aussi dans les mains et je n'arrive presque plus à couper. Je ne devrais plus travailler dans les vignes parce que je ne peux plus porter de choses lourdes sur mes épaules ou me baisser comme ça. C'est ce que le médecin m'a dit. Et c'est ce qu'il a expliqué à mon patron.
Mais ce que le patron a bien compris, c'est surtout que Willy était moins productif. Du coup, il a changé son statut. Il le paye non plus à la journée, mais à la grappe de raisin. Forcément, Willy gagne moins d'argent. Une entorse au droit du travail. Et nous allons voir que ce n'est pas la seule. Simon, le frère de Willy, habite dans le domaine viticole comme une trentaine d'ouvriers permanents. Ils sont 6 à partager cette maison. Le fermier est tenu par la loi sud-africaine de loger décemment ses ouvriers et de leur procurer notamment l'électricité.
Voilà, c'est chez moi.
Il vit avec sa femme dans une pièce de 5 mètres carrés depuis plus de 16 ans.
Et ça, c'est ma chambre. Les robinets d'eau chaude et d'eau froide sont dehors, sur le palier. Et pour l'électricité, comme vous pouvez voir, les machines ne fonctionnent pas. Regardez, par exemple, ces deux prises-là. Elle ne marche pas. Tout est cassé.
Sa voisine, Elena, partage le même quotidien et la même rancœur.
On se lave, on mange, on dort, on fait tout dans un seul endroit. J'ai même dû mettre des rideaux pour créer plusieurs pièces. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fermier a divisé une maison normale en quatre et il nous a mis dedans. Nous sommes des adultes, on ne peut pas vivre comme ça.
Malgré les demandes répétées des ouvriers, le fermier ne rénove pas leur logement. Même les toilettes sont à l'abandon.
Regardez, elle ne marche pas.
Et vous faites comment alors ?
On va dans les vignes.
Nous avons rencontré le viticulteur. Il s'appelle George. Sa famille exploite le domaine depuis 4 générations. Quand nous le questionnons sur les conditions de logement de ses employés, il semble se défausser.
L'idée, c'est que chacun ait des toilettes chez soi. On est en train de carreler le sol, on refait des toitures. Il y a juste quelques maisons qui ne sont pas aux normes. J'aimerais bien les rénover. D'habitude, le gouvernement nous donne des subventions pour le faire, mais moi, je n'en ai pas.
Question salaire, George fait à sa façon. Il ne paye pas ses ouvriers à l'heure de travail, mais à la quantité de raisins récoltés. C'est légal, tant que la somme versée à la fin de la journée n'est pas inférieure au salaire minimum. Nous retrouvons Sarah. C'est quoi ça ?
Pour chaque cajou, on te donne un jeton. Ça vaut 3 centimes.
Le décompte de ces jetons permettra à Sarah d'être payée plus tard.
Voilà les 9 d'hier.
Tu ne me les as pas donnés ?
Non.
Maria Samson ?
Non, Sarah Samson.
Aujourd'hui, Sarah a travaillé 10 heures, mais elle ne recevra que 2 euros, 5 fois moins que le salaire minimum légal. Les travailleurs se seraient-ils soulevés pour rien ? Le fermier est parfaitement conscient de ne pas appliquer la loi.
La loi dit qu'ils doivent toucher au moins 10 euros par jour, mais s'ils ne ramassent pas beaucoup de grappes, c'est à moi de m'adapter. Si un travailleur ne ramasse que 2 grappes de raisin, je ne peux pas le payer cette somme. Un bon ramasseur doit couper une tonne par jour, ça fait 45 cajots. S'il est à l'heure pour le travail, à 6 heures tous les matins, c'est possible. Mais hier, par exemple, j'envoyais certains lézarder à l'ombre, se balader. Je dois leur mettre la pression pour travailler.
Si l'industrie vinicole est aujourd'hui si prospère en Afrique du Sud, générant 2,5 milliards d'euros et faisant du pays le 7e producteur de vin au monde, c'est en grande partie grâce à ses travailleurs. Comment Sarah vit-elle avec ce bas salaire ? Où habite-t-elle ? Tous les soirs, elle prend place dans ce camion, où les ouvriers plaisantent sur leurs conditions de travail.
Notre ferme, je l'appelle Kakfontein, la fontaine de la merde, parce que ce qui se passe là-bas, ça sent pas bon.
Après une demi-heure de trajet, ils sont déposés au bord de l'autoroute. Et Sarah doit marcher une autre demi-heure.
Quand je rentre chez moi, je n'arrive plus à marcher tellement j'ai mal aux pieds.
Elle vit dans ce bidonville, un township, à l'arrière d'une cour. Sa cabane est pour le moins vétuste.
Non, non, la porte est coincée, vous ne pouvez pas entrer.
À la mort de son mari, travailleur viticole, elle a été expulsée de sa maison par le fermier. Elle y habitait depuis 10 ans. Aujourd'hui, elle enchaîne les petits boulots. Les vendanges restent sa principale source de revenus.
En fait, mon rêve, ce serait d'être employée de maison ou femme de ménage.
Pourquoi ?
La ferme, c'est trop dur. Employée de maison, ça paye bien.
Si les touristes ont rarement accès à la réalité des travailleurs, est-ce aussi le cas des importateurs étrangers et autres connaisseurs du vin sud-africain ? Que savent-ils et quelle est leur opinion ? Le Cap, dans un palace. Autour de ces tables, des sommeliers, des restaurateurs et des journalistes enchaînent les dégustations à l'aveugle. Ces noms connus dans le milieu sont tous français. Chaque année, ils récompensent le meilleur vin du pays.
Vous mettez 4 vins par table, vous les goûtez tous, vous en discutez, vous gardez ou vous gardez pas. Ce que vous gardez pas, vous le mettez par terre, je l'emmènerai. Et ce que vous gardez, je le mettrai sur la table ici. Hein, donc c'est
Claude Gillois est un expert en vin sud-africain. Il travaille pour des importateurs. Cela fait plus de 10 ans qu'il court les domaines.
Il faut du vin.
Il nous faut du vin, oui, si tu veux qu'on travaille.
Il a souvent entendu parler de tensions. Mais l'anecdote qu'il veut nous raconter met en cause les ouvriers et non les propriétaires qu'il connaît bien.
Il me disait que bon, il y avait eu 2 morts sur le domaine. Il leur avait construit des baraquements, mais des choses très bien en plus de ça pour qu'ils puissent vivre sur le domaine et travailler. Le problème, c'est que des fois le soir, ils boivent un peu trop et puis ils s'entretuent, quoi. Et donc ils ont eu 2 morts et ça leur posait énormément de problèmes parce que bon, il y a la police qui arrive, etc. C'est pas très bon pour la réputation du domaine, mais ils ne pouvaient rien faire. Donc ça peut être problématique effectivement d'avoir une petite communauté de moires sur un domaine qui vit ensemble et surtout parce que c'est des domaines viticoles où ils ont facilement accès à l'alcool.
Et le nez, ça part.
Pour ce sommelier, le problème, c'est que les exploitants agricoles n'ont pas encore tout à fait changé d'époque.
Les propriétaires blancs ont laissé un petit peu de souplesse aux noirs, mais ce n'est pas encore le cas. Alors aujourd'hui, on a quelques vignerons qui sont, entre guillemets, obligés de tendre la main vers les populations noires. Mais la fin de l'apartheid dans le monde du vin, comme dans le monde agricole, c'est un des grands problèmes de l'Afrique du Sud actuellement.
En clair, dans le secteur du vin, peu coutumier des changements brusques, les blancs continuent de commander et les noirs de vendanger. Mais ceci n'est plus vrai partout. Comme dans le domaine de Tandy, que dirige Vernon. Ce businessman hyperactif de 44 ans cultive une relation de proximité avec ses 120 employés.
Hello.
Salut. Vous travaillez bien? Charles, ça va? Vous êtes occupé? Vous faites quoi en ce moment?
On retaille le vignoble.
En 1995, un an après la chute de l'apartheid, un vigneron blanc propose à Vernon de s'associer. Le jeune homme sort d'une école de commerce, il accepte. 18 ans plus tard, il réalise un chiffre d'affaires de 600 000 euros et exporte la quasi-totalité de sa production.
Après 20 ans de démocratie, seuls 3% de l'industrie sont dans les mains de la communauté noire. Je pense que ce n'est pas durable. On doit arranger ça. On ne dit pas qu'il faut que ce soit 50-50, mais pas 3%. Donc il y a toujours un long chemin à parcourir. Moi, Charles et tous ceux qui sont dans notre dynamique, on aimerait voir arriver ce jour où nous serons juste tous sud-africains. Pas des militants noirs, mais des Sud-Africains qui sont dans le business du vin. Et tout le monde sera content. Dis-moi, c'est quand ton anniversaire?
Le 25 août.
Tu préfères des cookies ou des chocolats?
Des chocolats.
Ok, je t'en rapporterai d'Allemagne.
Sa réussite commerciale, Vernon la partage avec ses employés qui sont aussi ses actionnaires. Chacun touche une part des bénéfices.
Nous avons deux possibilités, augmenter fortement les salaires et faire des petits profits, ou alors verser des petits salaires et faire des gros profits. Moi, je pense que le mieux, c'est d'augmenter sensiblement les salaires et avoir une meilleure vie.
Au total, les employés de Vernon gagnent 17 euros par jour, primes incluses, soit 2 fois plus que le salaire minimum, et ils sont logés. Dans les campagnes sud-africaines, l'histoire est en marche, une marche très lente. Depuis les manifestations, Joshua, syndicaliste agricole, recrute de nouveaux membres. Jusqu'à présent, en Afrique du Sud, seuls 3% des ouvriers viticoles appartenaient à une organisation, le taux le plus bas parmi tous les métiers du pays.
Bonjour. Vous avez fini de travailler? Vous pouvez m'expliquer la route pour venir, s'il vous plaît?
Aujourd'hui, Joshua va rencontrer 25 travailleurs. et ils ont peur de le recevoir.
Encore aujourd'hui, c'est très difficile. Les fermiers font tout pour dissuader leurs ouvriers de se syndiquer et pour nous empêcher de venir. Ils mettent des barrages. On doit demander la permission de rencontrer les travailleurs. Ce n'est pas comme dans les autres compagnies.
Nous partons pour une ferme isolée, loin des circuits touristiques.
Allô, je suis près des abricotiers. Vous êtes où ?
Joshua suit les explications de son contact pour éviter d'être vu par le fermier. La réunion à laquelle nous allons assister est secrète. À la demande de cet homme en vert, le leader des ouvriers sur le domaine, nous troquons notre caméra pour une caméra cachée. Les travailleurs hésitent encore à se syndiquer et ils craignent que notre tournage ne les perturbe. Ils sont 20 dans cette cabane en ce dimanche après-midi. Très vite, les doléances fusent. Faible revenu, logement insalubre, absence de suivi médical. L'atmosphère est pesante.
Je vais vous dire une chose qui est fondamentale. Tout le monde s'engage, ou alors on laisse tomber. Il n'y a pas de demi-mesure, parce que ce qui va se passer à la fin du compte, c'est que le fermier va essayer de vous diviser. Il y aura le préféré, non syndiqué, et le pestiféré, qui aura signé, et ça sera grave pour tout le monde.
Une heure plus tard, Joshua les aura convaincus. Malgré les risques encourus, tous vont s'inscrire aujourd'hui.
Francine, ok. Elena, ok.
Prix d'une cotisation, 3 euros. Un tiers d'une journée de salaire. Aucun inspecteur du travail n'est jamais passé sur ce domaine. Dans la région, seule une dizaine de fermiers ont été verbalisés parce qu'ils n'appliquaient pas la loi. C'est donc en Joshua que ces travailleurs placent désormais tous leurs espoirs. Quelques pas au-dessus de l'océan, comme une bouffée d'air sur un balcon. Demain, Martine, Chantal et leur mari prendront l'avion pour rendre visite aux tribus Zoulous dans le sud-ouest du pays. Ils seront à 1600 km de la route des vins, loin de ce crépuscule magique sur le Cap.
Après s'être régalé les papilles avec le vin, on se régale les yeux avec le paysage. Qu'est-ce que c'est ?
Pas un seul des vacanciers n'a rapporté en France une bouteille sud-africaine. Une simple affaire de goût, ou l'impression qu'il y a comme un loup quelque part. Comme si ces vignobles où l'apartheid résiste encore n'étaient pas tout à fait prêts à s'offrir au regard des visiteurs.